en famille avec Zour sur Radio Orient.
Vous êtes à l'écoute de Radio Orient. Aujourd'hui, nous recevons la psychologue Nawal Darghal pour éclairer une question essentielle, la violence chez les adolescents au milieu urbain. Un phénomène complexe où se mêlent vulnérabilité individuelle, pression du groupe, sentiment d'injustice, traumatisme précoce et développement cérébral encore fragile. À travers quelques questions, on va essayer de comprendre et bien sûr profiter de son expertise pour prendre le temps de décoder, d'expliquer et découvrir des pistes d'action concrètes. Merci beaucoup, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à tous, bonjour à vous, et merci de nous recevoir.
Tout d'abord, Madame Nawal Darghal, pourquoi certains adolescents deviennent-ils particulièrement vulnérables à l'influence de groupes violents en milieu urbain et quels mécanismes psychologiques expliquent cette sensibilité?
Oui, quand on voit un adolescent rejoindre un groupe violent, une bande, on se demande souvent pourquoi lui, pourquoi pas son voisin, son frère, son ami d'école. Et c'est la question que tous les parents se posent. Mais je vais d'emblée briser une idée reçue. Il n'existe pas en fait de profil type du jeune qui bascule. Et ce n'est pas une question de mauvaise nature ou de mauvaise famille au sens large. C'est plus une question de vulnérabilité accumulée, c'est-à-dire de besoins fondamentaux qui n'ont pas trouvé de réponse. Tous les adolescents ont besoin de trois choses essentielles sur le plan psychologique, à savoir un sentiment d'appartenance, une reconnaissance de son existence, un sentiment de pouvoir. Et justement, quand ces trois besoins ne sont pas forcément comblés dans la famille, à l'école ou dans les structures de quartier, et ben le groupe, lui, les comble immédiatement. Et quand on rejoint une bande, c'est souvent la première communauté justement qui dit « tu comptes ici, tu as ta place, tu es quelqu'un ». Et c'est terriblement humain. Et c'est là que la vulnérabilité s'installe.
Donc, vous voulez parler de l'absence des parents, par exemple, à cette période?
Tout à fait. On peut parler, en fait, quand on parle d'un adolescent qui est plus vulnérable, ça va être un adolescent qui va cumuler plusieurs facteurs de fragilité, comme l'instabilité familiale, des expériences de violence ou de négligence précoce, et souvent un parcours scolaire marqué par l'échec ou l'exclusion. Et... je rajouterai, la violence est normalisée. Ça, c'est très important.
Madame Nawal Darghal, en quoi le développement encore inachevé du cerveau adolescent contribue-t-il à l'impulsivité, à la prise de risque et au comportement violent?
Ben, justement, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des avancées plus importantes sur les neurosciences. Et elles changeraient radicalement justement notre façon de comprendre l'adolescence. Et le cerveau n'est pas totalement mature avant 25 ans. La zone qui mûrit en dernier, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. C'est là où siège le raisonnement, la prise de décision, le contrôle des impulsions et la capacité à anticiper les conséquences. Donc en clair, quand un adolescent de 15 ans n'a pas encore biologiquement tous les outils neurologiques pour freiner une impulsion, évaluer un risque ou se projeter dans le futur, c'est pas une excuse, mais il y a une réalité neurobiologique. Et de l'autre côté, vous avez un autre système qu'on appelle le système limbique, qui est lui le centre des émotions, du plaisir, de la prise de risque. Et c'est celui-là qui est en pleine surchauffe. Et c'est le fameux déséquilibre que les chercheurs décrivent un peu comme une voiture avec un moteur de course et des freins de vélo. Et par exemple, moi, j'ai là le souvenir d'un enfant que j'ai suivi en cabinet, un adolescent de 17 ans qui avait fait une altercation grave dans son lycée. Et il me disait, je savais que c'était pas bien dans ma tête. J'entendais une voix qui disait arrête, mais il y avait quelque chose de plus fort qui avait pris le dessus, en fait.
Madame Nawal Darghal, comment le sentiment d'injustice sociale vécue ou perçue peut-il nourrir la colère, la frustration et favoriser le passage à l'acte violent?
Alors ça, c'est un lien que la psychologie sociale documente depuis quelques décennies et qui est souvent sous-estimé dans les débats publics. Mais le sentiment d'injustice n'est pas une opinion. C'est vraiment une expérience émotionnelle intense, viscérale, qui active en fait les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. et dans des études en neuroimagerie, c'est bien démontré, en fait. Être traité injustement, ça fait vraiment mal, comme si vous aviez une douleur physique intense. Et imaginez justement un adolescent qui, depuis l'enfance, accumule ses expériences. Mmh. Par exemple, être contrôlé dans la rue à cause de son apparence, se sentir moins bien orienté à l'école, voir sa famille méprisée ou ignorée, constater que les règles ne s'appliquent pas de la même façon pour tout le monde. Et ben tout ça, ça n'est pas de la paranoïa, hein. C'est souvent une lecture lucide d'une réalité. Et malheureusement, et ben, ça vient cumuler, en fait, et ça aggrave tout. Et c'est la colère, en fait. C'est que la colère liée à l'injustice sociale ne trouve souvent aucun canal d'expression légitime dans ces environnements. Et pas d'espace de parole, pas de structure qui écoute, pas de sentiment que se plaindre ou revendiquer, justement, change quoi que ce soit. Alors, bah, ça se cumule, ça explose. Et malheureusement, souvent, sur des cibles proches.
Madame Anouel Derghal, quel rôle jouent les traumatismes vécus dans l'enfance ou l'adolescence dans l'apparition des comportements violents chez les jeunes des milieux urbains?
En fait, honnêtement, je vais vous dire, enfin, on est encore loin, en tout cas de ma fenêtre, de mesurer l'ampleur réelle du traumatisme chez les adolescents en milieu urbain, parce que ces jeunes ne consultent pas. Mmh. Parce que la culture du quartier, ben, elle valorise plutôt la résistance, pas la vulnérabilité, et parce qu'on ne reconnaît pas toujours justement le traumatisme quand il se présente sous la forme d'un adolescent agressif ou fermé. Mmh. Donc un traumatisme, dans sa définition psychologique, c'est une expérience qui a débordé et qui fait que les capacités du cerveau à intégrer, à gérer, ben, ne sont plus possibles. Et donc, ben, ce n'est pas le cerveau, en fait, qui commence à fonctionner différemment. Mais par exemple, j'ai une adolescente que j'avais suivie en thérapie après plusieurs exclusions scolaires, et elle m'expliquait justement que depuis petite, elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, qu'elle n'en avait jamais parlé, même à ses amis. Et que quand quelqu'un la touche, sans la prévenir, c'est-à-dire un camarade, ben, elle avait des réactions très agressives, sans elle-même comprendre d'où ça sortait. Et un jour, sa prof lui effleure l'épaule et elle renverse sa table. Donc tout le monde la regarde un peu comme si elle était folle, mais elle se sentait en danger. Mais vous voyez, la grille de lecture qu'on a de l'extérieur, c'est de la violence. Mmh. C'est pas pareil.
Madame Anouel Derghal, avant on dirait il n'y a pas que les parents qui éduquent leurs enfants, il y a la mère, la grand-mère, les voisins. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a les bandes de copains, la fréquentation, le quartier?
Oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où un adolescent intègre un groupe, c'est qu'il il se retrouve à être à sa place, en fait. Et à être reconnu. Donc c'est comme si c'était la première fois de sa vie que quelqu'un le regarde et lui dit t'es des nôtres. Donc oui, les groupes d'amis influencent le comportement. Il y a des études qui ont été faites, c'est-à-dire que quand vous mettez des groupes, des gens qui se fréquentent sur plusieurs jours, à un moment ou l'autre, on a ce qu'on appelle du mimétisme qui s'installe. Et donc oui, on adopte, et avec les grands-parents, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez des enfants qui ont été beaucoup élevés, moi j'ai vu ça, patients qui ont été élevés par leurs grands-parents qui parlaient un arabe assez ancien et qui se sont appropriés aussi le lexique d'une ancienne génération qui n'existe plus aujourd'hui. Donc oui, le groupe influence énormément.
Mmh. Il ne faut pas oublier aussi les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que presque tous les adolescents, ils ont un portable.
Hein. Mmh. Oui, les réseaux sociaux jouent beaucoup et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça isole en fait. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, une sorte d'injonction paradoxale, c'est que vous faites partie d'un groupe et qui est virtuel en même temps, ça vous isole et ça vous ancre pas dans la réalité. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ces âges-là, au niveau neurologique, en fait, l'enfant n'est pas justement mûr, donc... Donc ça peut créer justement des dissonances cognitives et amener à des comportements et à des raisonnements qui ne sont pas adaptés.
Madame Nawal Darghal, quels leviers psychologiques, éducatifs et relationnels permettent réellement de prévenir la violence et de renforcer la résilience des adolescents au milieu urbain?
Alors, il y en a plusieurs, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que tout est accessible et réalisable, sauf que ça demande du temps, de la formation et aussi de la volonté politique. Et c'est des choses qui fonctionnent très bien. Le premier levier, c'est la relation. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les groupes. C'est-à-dire que la relation, ça paraît simple, mais c'est radical. Par exemple, en psychologie du développement, on sait très bien qu'un seul adulte bienveillant stable dans la vie d'un adolescent à risque peut changer sa trajectoire. Donc, on n'a même pas besoin d'une institution ou d'un programme, mais une personne, donc un éducateur de rue, qui va se souvenir de l'anniversaire, par exemple, ou un prof qui va l'appeler par son prénom et lui demander comment il va vraiment, ça va être très sécurisant, en fait, pour l'enfant. Et ça peut réparer en partie. Il y a le deuxième levier, c'est l'apprentissage des compétences émotionnelles. Moi, je le fais souvent en séance quand je reçois des adolescents, et je commence souvent par ça. C'est ce qu'appellent les anglo-saxons le « life skills », c'est-à-dire la capacité à identifier ce qu'on ressent, à le nommer, à le réguler, à résoudre un conflit autrement que par la force. Et pouvoir justement mettre des mots sur ces compétences émotionnelles, les identifier, c'est des choses qui s'apprennent et qu'on peut même enseigner dès l'école primaire ou dès le collège. Il y a des programmes qui existent. Et ça permet vraiment de réduire significativement les comportements. Ensuite, le troisième levier, c'est de redonner du sens et de la perspective, c'est-à-dire que la violence, elle crée du vide. Quand un adolescent ne se projette pas, par exemple, dans aucun avenir désirable, chaque projet qui reconnecte un jeune à ses propres sources, justement, à ses envies, à une image positive de lui-même dans le futur, qu'il s'agisse de la musique, du sport, de l'artisanat, de la cuisine, ce sont des leviers de prévention. Et ça occupe le temps et ça répond à un besoin fondamental chez un humain, c'est d'exister et de compter. Et le quatrième levier, le dernier, que je trouve qui est peut-être le sous-estimé, c'est d'impliquer les adolescents eux-mêmes dans la construction des solutions et qu'on leur demande leur avis quand on les associe à des projets qui les concernent, parce que ça prouve qu'on leur fait confiance et c'est une expérience qui peut les transformer, justement, quand on les implique.
On passe à quelques questions des auditeurs qu'on a reçues, bien sûr, sur WhatsApp de Radio Orion. Bonjour, ma fille de 14 ans s'est récemment rapprochée d'un groupe de jeunes très influents dans le quartier. Je sens qu'elle change et qu'elle devient plus agressive. Comment savoir si elle est sous pression ou si c'est juste une phase?
La première chose à faire, c'est d'en discuter avec sa fille et de lui poser les questions sans être trop intrusive, d'essayer de connaître qui sont ces personnes, leur nom, leur prénom, ce qu'ils font à l'école, pour mieux appréhender justement la dynamique du groupe et puis lui demander tout simplement ce qu'elle y trouve, qu'est-ce qui lui plaît d'être avec ces gens-là. En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre de la communication et d'essayer de comprendre avant de s'inquiéter. C'est important de connaître l'environnement de ses enfants et le meilleur moyen, c'est pas être dans le jugement, mais justement dans une certaine distance. Je sais que c'est difficile en tant que parent, mais pas souvent disponible dans nos têtes, mais c'est vraiment d'aller savoir ce qu'elle est et de lui poser les bonnes questions sans être trop dans le jugement.
On passe à Morad, éducateur. Je travaille avec des adolescents qui réagissent très vite par la violence, parfois pour des choses minimes. Est-ce lié à leur développement cérébral ou à leur environnement? Et comment les aider à freiner avant de frapper?
Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a l'environnement qui joue, ça c'est sûr. Comme je le disais précédemment, c'est que la violence peut être quelque chose de très normalisé. Ensuite, il y a l'apprentissage des compétences émotionnelles, c'est-à-dire que tant qu'on n'apprend pas à l'enfant à identifier ce qu'il ressent et le nommer, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail d'accompagnement à ce niveau-là qui est à faire, qui est très important. parce que justement, et de souligner que le bon comportement est celui-ci et le comportement qu'ils ont est complètement disproportionné. Et ça, c'est vraiment de l'apprentissage des compétences émotionnelles. Donc ça passe par un travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'en tant qu'éducateur, il doit s'appuyer sur un psychologue ou qui peut animer des groupes aussi d'adolescents autour de cette question de la violence et de faire en sorte que les enfants y assistent de manière régulière.